tous les mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie et Simone sélectionnent pour vous les bouquins des livres nomades et vous donnent l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un livre écrit par une auteure, une écrivaine américaine qui s'appelle Jean Egeland et son livre « Dans la forêt ». Ça a été publié aux éditions Gallimester en 2017 et en livre de poche en 2018. Jean Egeland, elle est née en 1956 dans l'État de Washington. Elle a été professeure en Caroline du Nord et puis à 25 ans, elle décide de se plonger dans l'écriture. Et son premier roman, justement celui dont on va parler aujourd'hui, « Dans la forêt », paraît en 1996 et rencontre un énorme succès aux États-Unis. Il y a des journalistes qui ont dit que ça a été un choc littéraire. Et il faudra attendre 2017 pour que les éditions Gallimester donc décident de le traduire et de le publier donc en 2018 et en poche après. Jean Egeland vit aujourd'hui au cœur des forêts de Caroline du Nord et partage son temps entre l'apiculture et l'écriture. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce livre Dans la forêt ? Eh bien, tout simplement, il y a vraiment une bonne raison. Nous avons le plaisir de recevoir à la médiathèque, donc Littéra va recevoir Jean Egeland le mardi 5 février à 17h30 à la médiathèque. C'est vraiment exceptionnel que nous puissions avoir un écrivain américain, et ça c'est grâce au prix PACA des lycéens et des apprentis, avec qui de temps en temps nous travaillons justement, ils nous prêtent entre guillemets les auteurs qu'ils reçoivent. Alors, je vais vous faire tout simplement la lecture du début du livre pour vous donner, parce que vraiment le début donne envie de le lire. C'est étrange d'écrire ces premiers mots, comme si je me penchais par-dessus le silence moisi d'un puits et que je voyais mon visage apparaître à la surface de l'eau, tout petit, et se présentant sous un angle si inhabituel que je suis surprise de constater qu'il s'agit de mon reflet. Après tout ce temps, un stylo a quelque chose de raide et d'encombrant dans ma main. Et je dois avouer que ce cahier, avec ses pages blanches pareilles à une immense étendue vierge, m'apparaît presque plus comme une menace que comme un cadeau. Car que pourrais-je y relater dont le souvenir ne sera pas douloureux ? Tu pourrais écrire sur maintenant, a dit Eva, sur l'époque actuelle. J'étais tellement persuadée ce matin que le cahier me servirait à étudier que j'ai dû faire un effort pour ne pas me moquer de sa suggestion. Mais je me rends compte à présent qu'elle a peut-être raison. Tous les sujets auxquels je pense, de l'économie à la météorologie, de l'anatomie à la géographie et à l'histoire, semblent tourner en rond et me ramener inévitablement à maintenant, à ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Noël. Je ne peux pas l'éviter. Nous avons barré les jours sur le calendrier bien trop consciencieusement pour confondre les dates, même si nous aurions aimé nous tromper. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël, et le jour de Noël est une nouvelle journée à passer, une nouvelle journée à endurer, afin qu'un jour bientôt cette époque soit derrière nous. À Noël prochain, tout ceci sera terminé, et ma sœur et moi aurons retrouvé les vies que nous sommes censés vivre. L'électricité sera rétablie, les téléphones fonctionneront, des avions survoleront à nouveau notre clairière. En ville, il y aura à manger dans les magasins et de l'essence dans les stations-service. Bien avant Noël prochain, nous nous serons permis tout ce qui nous manque maintenant et dont nous avons terriblement envie. Du savon et du shampoing, du papier toilette et du lait, des fruits, de la viande. Mon ordinateur marchera, le lecteur CD d'Eva tournera. Nous écouterons la radio, lirons le journal, consulterons Internet. Les banques et les écoles et les bibliothèques auront rouvert et Eva et moi aurons quitté cette maison où nous vivons en ce moment comme des orphelines qui ont fait naufrage. Ma sœur dansera avec le corps de ballet de San Francisco. J'aurai fini mon premier semestre à Harvard. Et ce jour humide et sombre que le calendrier persiste à appeler Noël sera passé depuis très très longtemps. Joyeux Noël, semi-païen, légèrement littéraire et très commercial, annonçait toujours notre père le matin de Noël, quand, bien avant l'aube hivernale, Eva et moi faisions équipe dans le couloir devant la chambre de nos parents. Tellement excités, nous ne tenions pas en place, nous lui supplions de se lever, de descendre, de se dépêcher, tandis qu'ils bâillaient, s'obstinaient à enfiler leur peignoir, à se laver la figure et à se brosser les dents, même, quand notre père était particulièrement agaçant, à faire du café. Après la pagaille et les éclats de rire entourant l'ouverture des cadeaux, venait le déjeuner que nous trouvions tout naturel, les coups de fil de lointains parents, le messie de Handel qui sortait triomphalement du lecteur de CD. À un moment dans l'après-midi, nous allions nous promener tous les quatre sur le chemin de terre qui aboutit à notre clairière. L'air frais et vivifiant et la forêt verte nettoyaient nos sens et nos palais. Et lorsque nous arrivions au pont et étions prêts à faire demi-tour, notre père déclarait immanquablement « Voilà le vrai cadeau de Noël, nom de Dieu ! La paix, le silence et l'air pur ! Pas de voisin à moins de 6 kilomètres et pas de ville à moins de 50 ! Béni soit Bouddha, Shiva, Jéhovah et le service des forêts de Californie, nous vivons tout au bout de la route !» Plus tard, une fois la nuit tombée, quand dans la maison plongée dans l'obscurité ne brillaient plus que les boules du sapin, Mère allumait les bougies de la pyramide de Noël et nous nous tenions pendant un moment en silence devant le carrousel pour regarder les bergers, les rois mages et les anges tourner autour de la Sainte Famille. « Ouais, disait notre père avant que nous nous dispersions pour grignoter la carcasse de la dinde et couper des tranches du pudding froid. C'est ça l'histoire. » Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Mais au moins, il y a un bébé au centre. Ce Noël-ci, il n'y a rien de tout cela. Pas de guirlandes, pas de cartes de vœux, pas de piles de cadeaux, pas d'appels longue distance de grand-tantes et de cousins issus de Germain. Pas de chant de Noël. Pas de dinde, ni de pudding, ni de balade jusqu'au pont avec nos parents, ni de messie de Handel. Cette année, Noël n'est rien de plus qu'un carré blanc sur un calendrier presque arrivé à la fin. Une tasse de thé en plus, quelques instants d'éclairage à la bougie, et pour chacune de nous, un unique cadeau. À quoi bon tout ça? Il y a 3 ans, alors que j'avais 14 ans et Eva 15, j'avais posé la même question par un soir de pluie une semaine avant Noël. Père ronchonnait à cause du nombre de cartes qui lui restaient à écrire, et mère s'était retirée dans son atelier avec sa machine à coudre ronflante, et elle en émergeait régulièrement pour sortir une nouvelle fournée de cookies et me rappeler de laver les saladiers. « Nel, j'ai besoin que ces récipients soient propres pour lancer le pudding avant d'aller me coucher, » dit-elle en refermant la porte du four sur la dernière plaque de cookies. « Ok, marmonnai-je. » Et je tournais la page du livre dans lequel j'étais plongée. « Ce soir, Nel, » insista-t-elle. Je levai les yeux de mon livre avec agacement et demandai « Mais pourquoi on fait ça ?»« Parce qu'ils sont seuls, » répondit ma mère en s'arrêtant au passage pour me donner un biscuit au gingembre tout chaud avant de retourner altière au mystère de sa couture. « Je ne parlais pas des plats, » dis-je d'une voix bougonne. « De quoi alors, Pumpkin ?» demanda mon père tandis qu'il léchait une enveloppe et barrait énergiquement un nouveau nom de sa liste. « Noël, toute cette agitation et ce bazar !» On n'est même pas vraiment chrétien. Un peu qu'on ne l'est pas, rétorqua mon père. Il posa son stylo et se leva d'un bond de la table près de la fenêtre, déjà entraîné par l'énergie de son propre discours. Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes capitalistes. Tout le monde dans ce pays de branleurs est capitaliste, que les gens le veuillent ou non. Tout le monde dans ce pays fait partie des consommateurs les plus voraces qui soient, avec un taux d'utilisation des ressources 20 fois supérieur à celui de n'importe qui d'autre sur cette pauvre terre. Et Noël est notre occasion en or d'augmenter la cadence. Quand il remarqua que je reprenais mon livre, il ajouta : « Pourquoi fête-t-on Noël ? Ça me dépasse. Tu sais quoi ? Arrêtons. Jetons l'éponge. J'irai rapporter les cadeaux en ville demain. Nous donnerons les cookies aux poules et écrirons à tous nos amis et parents leur expliquant que nous renonçons à Noël pour le carême. En même temps, c'est une honte de gâcher mes vacances, continua-t-il d'un air faussement triste. Il fit claquer ses doigts et se baissa vivement comme si une idée venait juste de le frapper à l'arrière de la tête. « Je sais, nous remplacerons les poutres sous la buanderie. Laisse tomber la vaisselle, Ney, et trouve-moi le cric. » Je le fusillai du regard, le détestant l'espace d'une demi-seconde pour la facilité avec laquelle il avait contré mes piques et ma mauvaise humeur. Vexé, je fonçai dans la cuisine, ramassai une poignée de cookies et montai m'enfermer dans ma chambre avec mon livre. Plus tard, je l'entendis laver les plats que j'avais méprisés tout en chantant à tue-tête. L'année suivante, même moi, je n'aurais pas osé contester Noël. Mère était malade et nous nous raccrochions à tout ce qui était lumineux et sucré et chaud, comme si nous pensions qu'en ignorant les ombres, elle s'évanouirait dans la brillance de l'espoir. Mais au printemps suivant, le cancer l'avait quand même emporté. Et à Noël dernier, ma sœur et moi avions fait de notre mieux pour cuire et emballer et chanter dans le fol espoir de convaincre notre père et nous-mêmes que nous pouvions être heureux sans elle. Je pensais que nous étions déprimés à Noël dernier. Je pensais que nous étions déprimés parce que notre mère était morte et que notre père était devenu distant et silencieux. Mais il y avait des lumières sur le sapin et une dinde dans le four. Eva était Clara dans le casse-noisette que donnait la compagnie de ballet de Redwood, et je venais de recevoir les résultats de mes Scholastic Aptitude Tests, qui étaient suffisamment bons pour justifier la lettre que je rédigeais à l'intention du comité d'admission de Harvard. Mais cette année, tout cela a disparu ou est à l'arrêt. Cette année, Eva et moi marquons le coup uniquement parce qu'il est moins douloureux d'admettre que c'est Noël aujourd'hui que de faire comme si ça ne l'était pas. Ce n'est pas évident de trouver un cadeau pour quelqu'un quand il n'y a plus de magasin où l'acheter, quand on peut difficilement s'isoler pour le fabriquer, quand tout ce qu'on possède, chaque haricot et grain de riz, chaque cuillère et stylo et agrafe, appartient également à la personne à qui on veut faire un cadeau. J'ai offert à Eva une paire de ses propres chaussons à pointe. Il y a 2 semaines, j'ai pris discrètement ceux qui étaient les moins abîmés dans le placard de son studio de danse, et je les ai réparés du mieux possible en cachette pendant qu'elle s'entraînait. Avec les dernières gouttes du détachant de notre mère, j'ai nettoyé le satin en lambeaux, j'ai recousu les semelles en cuir avec du monofilament que j'ai déniché dans le matériel de pêche de notre père. J'ai trempé les coques qui étaient tout écrasées dans un mélange d'eau et de colle à bois, et j'ai essayé au maximum de leur redonner forme, puis je les ai cachées derrière le poêle pour qu'elles sèchent, et je les ai ensuite retrempées, refaçonnées et séchées à nouveau plusieurs fois de suite. Pour finir, j'ai reprisé le satin usé à l'extrémité des pointes, de sorte qu'Eva puisse tirer quelques heures supplémentaires de ses chaussons en dansant d'abord sur l'enchevêtrement des points que j'avais cousus. Elle est restée sans voix quand elle a ouvert la boîte et qu'elle les a vus. « Je ne sais pas s'ils vont aller, » ai-je dit. « Ils sont probablement trop souples. Je ne savais pas très bien ce que je faisais. » Mais tandis que j'étais encore en train d'ergoter, elle s'est jetée à mon cou. Nous nous sommes étreintes pendant une longue seconde, puis avons bondi toutes les deux en arrière. Ces jours-ci, nos corps portent nos chagrins comme s'ils étaient des bols remplis d'eau à ras-bord. Nous devons être vigilantes tout le temps, au moindre sursaut ou mouvement inattendu. L'eau se renverse et se renverse et se renverse. Le cadeau qu'Eva m'a donné, c'est ce cahier. Ce n'est pas un ordinateur, a-t-elle dit alors que je le dégageais du papier cadeau tout froissé, récupéré d'un anniversaire lointain et pas encore sacrifié pour allumer le feu. Mais il n'a jamais été utilisé, aucune page. Un cahier vierge, me suis-je émerveillée. Mais où donc l'as-tu trouvé ? Derrière ma commode, il a dû tomber là il y a des années. J'ai pensé que tu pourrais t'en servir pour écrire sur maintenant. Pour nos petits-enfants, ou que sais-je? Pour l'instant, des petits-enfants semblent moins probables que des extraterrestres venus de Mars. Et quand j'ai soulevé la couverture en carton taché et que j'ai feuilleté les pages qui sentaient légèrement le renfermer, toutes blanches à l'exception de l'échafaudage des lignes, je dois admettre que je pensais davantage à réviser pour les tests qu'à tenir la chronique de cette époque. Et pourtant, c'est agréable d'écrire. Le bruit sec et rapide des touches de mon clavier d'ordinateur me manque, ainsi que la luminosité de l'écran. Mais ce soir, ce stylo est comme le vin de la Plaza dans ma main, et déjà les lignes qui guident ces mots sur la page évoquent plus la chaîne du métier à tisser de notre mère et moins les barres de l'échafaudage que j'avais imaginé qu'elles étaient au départ. Déjà, je vois combien il y a de choses à raconter. Ce que je voulais vraiment offrir à Eva, c'était de l'essence. Juste un peu, assez pour que le groupe électrogène fonctionne et qu'elle puisse mettre ne serait-ce qu'un seul CD, qu'elle puisse laisser la musique la pénétrer à nouveau jusque dans ses os. Juste un galon ou deux, pour qu'elle n'ait plus à danser qu'au seul battement impitoyable du métronome. Mais il n'y a plus d'essence. À notre retour de la ville, la dernière fois que nous y sommes allés, l'implacable aiguille de la jauge d'essence était bien en dessous de zéro. On a parcouru les 5 derniers kilomètres grâce aux vapeurs d'essence, les filles, avait annoncé notre père. M'est avis qu'on ne va pas bouger pendant un moment. Mais ne vous inquiétez pas, on a plus de provisions qu'il n'en faut, et quand tout repartira, je prendrai le jerrycan et j'irai à la ville en stop. Notre père est entré à présent dans la forêt. Le jerrycan vide rouille quelque part dans le désordre de son atelier, et Eva devra danser au son faiblissant de sa mémoire pendant encore quelque temps. « C'est l'heure d'allumer le carrousel, » demande Eva. « Il fait nuit, mais tu crois vraiment qu'on devrait l'allumer ? Je n'arrête pas de me dire qu'on aurait peut-être intérêt à garder les bougies pour une urgence. » Elle hausse légèrement les épaules. « C'est Noël, non ?» Le carrousel, en pain sculpté et laqué, est une crèche ronde à 3 étages, joyau de mes plus anciens et plus tenaces souvenirs de Noël. Il a été fabriqué en Chine, et tous les ans, notre père se réjouissait de voir les bergers dans le costume sombre des paysans chinois, les anges aux cheveux noirs avec la même coupe au carré que les chinoises, et tout le monde, le petit Jésus compris, avec d'élégants yeux bridés. « J'espère que de notre côté, on leur envoie des bouddhas blonds, » disait-il avec un plaisir ironique. Rien ne risque plus de briser le chauvinisme religieux qu'une économie de marché mondialisée. Eva désigne la table où attend le carrousel. « Prête ? » demande-t-elle. Je hoche la tête en m'efforçant de ne pas compter les minutes d'éclairage dont nous disposons avec ce qui reste de ces bougies, en m'efforçant de ne pas penser au moment où nous en aurons peut-être un besoin plus vital que ce soir. Eva enfonce une brindille de petit bois dans le charbon et quand elle s'enflamme, elle la sort du feu et la porte au carrousel. Avec l'extrémité de sa brindille, elle touche une par une les bouts de chandelle qui font le tour de l'étage du bas. Une par une, les mèches s'embrasent jusqu'à ce que 6 flammes ondulent dans l'air immobile. J'en ai le souffle coupé. C'est la première fois que nous voyons tant de lumière le soir depuis que la lampe à pétrole a rendu l'âme en crachotant au printemps dernier. Cela change nos voix, donne à nos mots plus de rondeur et de douceur et de plénitude, avec une pointe de crainte révérentielle. Pures et sans fumée, les flammes oscillent et bondissent comme des danseurs autour de leurs mèches noires et raides, et tout dans la pièce paraît chaud et tendre. Mes yeux s'emplissent de larmes, et je continue de fixer ces langues brillantes, ces pétales de feu. La cire fond, lui. Et à mesure que la chaleur des flammes des bougies monte, les lames en bois au-dessus des anges captent le courant d'air chaud et le carrousel entier se met en mouvement. Silencieusement, posément, les anges et les bergers et les moutons, les rois mages et leurs chameaux, chacun tourne autour d'une Marie, d'un Joseph et d'un enfant Jésus, immobile. Nous regardons muettes, tandis que tous nos Noëls ressurgissent et nous sommes submergés par un sentiment si fort que l'accepter est horrible, le refuser impossible. L'une des bougies vacille, la flamme crachote, se dresse à la recherche d'oxygène puis s'affaisse sur elle-même. Le carrousel ralentit. Nous regardons en silence, fascinés par les ombres qui tournoient au plafond, par le frémissement des 5 dernières flammes, par la lente combustion et rotation des souvenirs. Une autre bougie meurt et le carrousel s'arrête. Dans la lumière déclinante des 3 dernières flammes, les bergers s'agenouillent tranquillement parmi les moutons. Les rois mages tiennent avec raideur leurs présents dans leurs bras en bois, plus éloignés que jamais de leur but. Marie et Joseph sont debout au garde-à-vous, de part et d'autre de l'enfant en bois. Les bougies faiblissent en jetant un dernier éclat. L'ultime mèche tombe. La flamme s'évanouit. Noël est terminé. L'obscurité reprend possession de nous. Une nouvelle journée de pluie, hormis une sortie rapide ce matin pour aller chercher du bois et ouvrir le poulailler, afin que Bathsheba, Lilith et Pinky grattent le sol détrempé de la cour. Nous n'avons pas mis le nez dehors. Dire que Noël, c'était hier. Sans ce cahier et le fait qu'Eva a disparu dans son studio dès l'aube, personne ne l'aurait su. « Tu vas user de nouveau ses chaussons en un jour, lui ai-je dit quand elle est revenue à midi. » Je sais, elle a écarté de sa poitrine son t-shirt trempé de sueur, a bu un autre grand verre de l'eau qui s'accumule goutte à goutte dans l'évier de la cuisine. Puis elle est retournée prestement dans son studio sans un mot. Même maintenant, Eva peut user les choses jusqu'au bout. Moi, je veux tout garder, tout consommer à petite dose indéfiniment. Je peux faire durer 12 raisins secs ou un vieux sucre d'orge d'un centimètre et demi une soirée entière. Prolonger le plaisir comme si c'était une personne âgée qu'on promène dans sa chaise roulante sous le soleil hivernal. Mais Eva continue d'engloutir. Autant en profiter tant qu'on en a, dit-elle. Et elle danse jusqu'à ce que ses chaussons soient en lambeaux, avale sa part de raisins en une bouchée, allume des bougies et les laisse se consumer. Et ne s'inquiète jamais de ce qui est perdu. « Pourquoi pas ?» demande-t-elle avec un mouvement brusque de la tête, un petit coup à droite du poignet. « Rien ne dure éternellement. Et puis, ce n'est pas comme si on ne verra plus jamais des raisins secs. Nous avons assez de vivres, se moque-t-elle quand elle me voit hésiter longuement devant une poignée de cacahuètes rances ou les dernières gouttes de la sauce soja. Nous ne mourrons pas de faim. » Elle a raison. Les étagères du garde-manger regorgent encore des provisions que nous avons achetées lors de notre dernière expédition en ville et des bocaux d'un litre de tomates, de betteraves, de haricots verts, de compotes de pommes, d'abricots, de pêches, de prunes et de poires que notre père a mis en conserve avec notre aide l'été dernier. Il nous reste encore du riz, de la farine de blé, de la farine de maïs, des haricots pinto et des lentilles. Il nous reste des macaronis, du thon, des soupes en boîte. Nous avons un peu de sucre, un peu de sel, une pincée de levure. Nous avons du lait en poudre et du fromage râpé. Nous avons encore un demi-pot de matière grasse végétale, une variété disparate d'épices et toutes sortes de produits comestibles en vrac. Nous avons plus qu'il n'en faut pour tenir. Mais malgré tout, je dois lutter contre mon envie de m'accrocher à tout ce que nous possédons encore, comme si gâcher une autre goutte ou un autre petit morceau risquait de nous envoyer à la dérive pour de bon. Quand je pense à la façon dont nous vivions, à la désinvolture avec laquelle nous usions les choses, je suis à la fois atterrée et pleine de nostalgie. Je me souviens d'avoir vidé des corbeilles à papier qui auraient tout d'un trésor aujourd'hui. Des corbeilles remplies des cylindres en carton, des rouleaux de papier toilette, des vieux Kleenex, de crayons cassés, de trombones tordus, de feuilles de cahier froissées et de sacs en plastique vide. Je me souviens de m'être débarrassée d'habits déchirés, tachés, ou qui n'étaient plus à la mode. Je me souviens d'avoir jeté de la nourriture, d'avoir raclé des monceaux de nourriture de nos assiettes dans le bac à compost. Simplement parce qu'elle était demeurée intacte sur l'une de nos assiettes pendant toute la durée d'un repas. Comme je regrette ces corbeilles à papier, pleines à ras-bord, ces reliefs de repas. Je rêve d'enfourner des sachets entiers de raisins secs, de brûler 12 bougies à la fois. Je rêve de me laisser aller, d'oublier, de ne me préoccuper de rien. Je veux vivre avec abandon, avec la grâce insouciante du consommateur, au lieu de m'accrocher comme une vieille paysanne qui se tracasse pour des miettes. L'hiver dernier, quand il y a eu les premières coupures d'électricité, elles étaient si exceptionnelles et si brèves que nous n'y avons pas vraiment prêté attention. Ils doivent sans doute réparer les lignes, disons-nous, ou un arbre est sûrement tombé à cause de la pluie. Ils vont bientôt remettre le courant. Et effectivement, les lumières ne tardaient pas à clignoter, le lave-linge à reprendre son ronron et ses trépidations dans la buanderie. L'aspirateur à repartir en vrombissant, et une seconde plus tard, nous considérions à nouveau l'électricité comme tout à fait normale. maintenant que j'y repense. Je suis sûre que nous étions tous les trois en état de choc, hébétés, toujours sous le coup de la mort de mère, moins de 9 mois auparavant. Nous n'avons peut-être pas pris conscience, quand il en était encore temps, qu'après des décennies d'avertissements et de prédictions, les choses commençaient vraiment à manquer. Et puis, comme nous vivions loin de tout, nous étions habitués aux épisodiques coupures d'électricité et à attendre que le courant soit rétabli dans les zones plus peuplées avant de l'être chez nous. Peut-être que nous aurions dû nous douter plus tôt que ce qui se passait était différent. Pendant longtemps, le courant cessait quelques minutes par jour seulement, juste assez pour que ce soit agaçant, embêtant. Le micro-ondes s'arrêtait d'un seul coup, le linge retombait mouillé au fond du séchoir, le dîner refroidissait à moitié cuit dans le four. Si l'un de nous prenait une douche, l'eau coulait en un maigre filet alimenté par la gravité, sans la pompe électrique pour lui donner de la pression. Si je travaillais sur l'ordinateur, l'écran s'éteignait et la tour poussait un râle avant de planter. Si Eva s'entraînait à la maison, le CD sur lequel elle dansait s'interrompait et elle sortait en trébuchant de son studio comme si elle venait d'être réveillée par une gifle. Pendant longtemps, rares étaient les jours durant lesquels le courant n'était pas coupé au moins une fois. À la fin, rares étaient les jours où le courant revenait. À un moment, nous nous sommes rendus compte que nous avions perdu l'habitude de chercher à tâtons l'interrupteur en entrant dans une pièce. Nous avons arrêté de tendre le bras automatiquement pour tourner le thermostat du four quand nous voulions cuire quelque chose ou pour ouvrir la porte du frigo quand nous avions faim. Nous avons retiré les couvertures chauffantes de nos lits, rangé la cafetière électrique, roulé les tapis sur lesquels nous ne pouvions plus passer l'aspirateur. Notre père nous a appris à moucher, remplir et allumer les lampes à pétrole qu'il avait autrefois défendues à notre mère de jeter. Et pendant quelque temps, c'est avec elle que nous nous éclairions quand la nuit tombait. Père avait acheté il y a longtemps un groupe électrogène pour alimenter la pompe à eau au cas où il y aurait un incendie et que nous soyons privés d'électricité. Et parfois, nous l'allumions afin qu'Eva puisse danser et moi tenter d'aller sur Internet et lire les nouvelles, ou du moins la propagande, qui s'autoproclamait comme telle, violente ou rassurante selon les sites. Mais même quand il arrivait que les lignes téléphoniques fonctionnent, il était pratiquement impossible de se connecter. En général, je supportais si mal de gâcher les moments où le courant marchait à attendre un accès Internet que je renonçais et me mettais à étudier avec acharnement pendant que le groupe électrogène s'essoufflait dehors. À la fin, comme le temps passait et que l'essence commençait à manquer, Père nous convainquit de ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. Nous avions consommé depuis longtemps ce qu'il y avait dans le congélateur. Et au bout d'un moment, nous avons dû renoncer au frigo aussi. Notre père a creusé un trou dans le ruisseau, l'a tapissé de pierres et de sacs poubelles en plastique noir, l'a recouvert avec un panneau de signalisation cédé le passage qu'il avait récupéré autrefois à la déchetterie et l'a fièrement appelé « réfrigérateur ». Eva et moi nous plaignions de devoir tout envelopper pour que l'eau ne pénètre pas dans les aliments, d'avoir à descendre au ruisseau chaque fois que nous voulions du lait ou une laitue ou de la margarine, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à conserver au froid. Le téléphone s'est éteint de la même façon que l'électricité. Pendant un moment après que le courant avait cessé d'être fiable, nous pouvions encore passer un coup de fil de temps en temps si nous étions suffisamment persévérants. Composer le numéro jusqu'à ce que les 7 chiffres sifflent dans nos têtes prenait parfois toute la matinée. Tout ça pour entendre la voix électronique de la compagnie de téléphone répondre poliment « Nous sommes désolés, toutes nos lignes sont occupées. Veuillez raccrocher et rappeler ultérieurement. » Mais tôt ou tard, nous parvenions à obtenir la communication. Nous pouvions encore signaler au répondeur de la compagnie d'électricité que le courant avait de nouveau sauté. Une fois que les quotidiens ont cessé de paraître tous les matins et que les informations à la radio sont devenues de plus en plus rares, les quelques nouvelles qu'on arrivait à avoir étaient si fragmentaires et si contradictoires qu'elles ne nous disaient pratiquement rien sur ce qui se passait vraiment. Bien sûr, une guerre sévissait. Nous avions déménagé la radio de notre mère de son atelier à la cuisine et avant que les piles meurent au printemps dernier, nous la cajolions pour qu'elle marmonne sa litanie de désastre pendant que nous préparions le dîner. En janvier, je ne sais plus exactement quand, nous avons appris qu'un groupe paramilitaire avait fait sauter le Golden Gate Bridge et moins d'un mois après que le marché des devises étrangères s'était effondré. En mars, un séisme a provoqué la fusion du cœur d'un des réacteurs nucléaires de Californie et la crue du Mississippi a été d'une violence inimaginable. Pendant tout l'hiver dernier, les journaux, quand nous arrivions à les avoir, croulaient sous les nouvelles de désastres. Et je me demande si ce n'est pas la convergence de toutes ces catastrophes qui nous a conduits à cette paralysie. À cela s'ajoutaient tous les problèmes habituels. Le déficit du gouvernement avait fait boule de neige pendant plus d'un quart de siècle. Nous connaissions une crise du pétrole depuis au moins deux générations. Il y avait des trous dans la couche d'ozone, nos forêts disparaissaient, nos terres arables exigeaient de plus en plus d'engrais et de pesticides pour produire moins de nourriture, mais plus toxique. Il y avait un taux de chômage effroyable, un système d'aide sociale surchargé, et les gens dans les quartiers déshérités bouillaient de frustration, de rage et de désespoir. Des écoliers se tiraient dessus pendant la récréation, des adolescents abattaient des automobilistes sur les autoroutes, des adultes ouvraient le feu sur des étrangers dans les fast-foods. Nous avons appris que le comté à l'est de Redwood avait encore de l'électricité et que le tiers-monde se ralliait pour nous envoyer de l'aide. Et nous avons appris que la Chine et la Russie étaient en guerre, que les États-Unis avaient été oubliés. Les gens se tournaient vers le passé pour se rassurer et y puiser de l'inspiration. À la bibliothèque, au supermarché, la station-service et même sur la plaza, nous écoutions les discours relatant les sacrifices et les épreuves des pères pèlerins et des pionniers. Citant les chroniqueurs et les animateurs de talk-shows disparus, les gens évoquaient la Grande Dépression et les guerres mondiales, racontaient comment ces temps difficiles avaient forgé des caractères, uni des familles et des communautés, comment ils avaient renforcé notre pays et lui avaient donné une nouvelle énergie et une nouvelle direction. Cette fois aussi, déclarait-il, un peu de patience et d'endurance était nécessaire pour servir les causes de la liberté et de la démocratie. Il suffisait juste que chacun apporte sa contribution, qu'on se serre les coudes et qu'on patiente. À vous de découvrir comment les deux jeunes filles vont devoir changer totalement de vie pour arriver à survivre, non seulement à vivre, mais à survivre, je dirais, ce qu'elles vont endurer. Et toujours le souvenir de leur vie d'avant qui ressurgit et qui les aide. Un livre donc qui est un huis clos assez inquiétant, bien sûr. Un roman d'anticipation, je vous rappelle qu'il a été écrit en 1996. On repart de zéro, c'est la fin. Est-ce que c'est la fin de notre civilisation? Est-ce que c'est une nouvelle utopie? À vous de vous faire une idée. En lisant le livre donc de Jean England, Dans la forêt, et je vous rappelle que Jean England sera le mardi 5 février à 17h30 à la médiathèque, invité par notre association Littera. Nous en sommes très ravis et très fiers. Voilà, merci, à bientôt. Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.